Tu es lassé du modèle entrepreneurial classique où il faut tout faire vite, tout le temps, et où le succès se mesure uniquement en termes de chiffre d'affaires. Tu as envie de créer un business qui te ressemble vraiment, qui te permette de t'épanouir et d'avoir un impact positif sur le monde. Je te souhaite la bienvenue sur le Slowpreneur. C'est le podcast qui te guide pour entreprendre à ton rythme, en accord avec tes valeurs et tes envies. Je m'appelle Lionel Clément et chaque semaine, je te donne mes astuces basées sur mon expérience de plus de 10 ans d'entrepreneuriat pour arrêter de faire de ton business le tout de ton existence, mais au contraire, créer ton entreprise en fonction du mode de vie que tu veux vraiment avoir. Alors, prêt à explorer le monde du slowpreneuriat et à créer une entreprise qui te ressemble vraiment ? Commence à définir ton slow business et à construire ton entreprise idéale en écoutant l'épisode qui suit et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier pour moi parce que j'ai l'immense plaisir de recevoir ma toute première invitée. Youhou ! Nelly Kempf, je l'ai rencontrée sur LinkedIn. Alors pour moi, Nelly, c'est vraiment la queen du SEO. Ce que je trouve génial, c'est qu'elle a réussi déjà à s'imposer dans un univers, on va être franc, qui est majoritairement masculin. Et ce que je trouve doublement génial, c'est qu'elle a un vrai talent pour rendre les concepts SEO super simples et pour nous aider avec ses posts à progresser. Au-delà de son expertise, elle est surtout pour moi un exemple de slowpreneuriat. Elle a choisi de vivre au Mexique, alors que la plupart de ses clients sont en France. Elle a décidé de privilégier son bien-être et son équilibre vie pro-vie perso. Et surtout, elle est passionnée de kitesurf, ce qui pour moi est un vrai plus. Bref, je crois que vous allez vous aussi adorer découvrir Nelly. Bonjour Nelly, pour commencer, comment vas-tu ?
Mais bonjour Lionel, dis donc tu me fais rougir avec une présentation comme ça.
Arrête.
Je suis très contente que tu m'accueilles.
Arrête, je suis sûr et certain qu'il y a plein de gens qui te présentent de manière encore plus dithyrambique que je viens de le faire.
Mais c'est toujours très agréable, je prends moi.
Non, mais on va être clair, tu es quelqu'un quand même de très atypique sur LinkedIn, je pense que tu en as quand même conscience.
C'est sûr que je ne suis pas très costard-cravate, cher réseau corporate, quoi. Je fais un peu ce que je veux et les gens ont l'air d'apprécier, donc pourquoi s'en priver ?
En tout cas, moi j'apprécie. Et c'est vraiment pour ça, tu vois, pour le coup, alors, pour la petite histoire, hein, moi, le SEO, c'est une vraie passion. Alors, je ne fais pas de SEO pour mes clients, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que tu m'as directement tapé dans l'œil parce que ce que tu fais, moi, je trouve ça vraiment génial parce qu'en général, le SEO, c'est toujours très compliqué. Tu vois, les mecs, ils te présentent des trucs, tu as l'impression que on a sacrifié une poule et on est en train de dire dans les entrailles, tu vois. Et toi, tu rends ça hyper limpide et je trouve que c'est vraiment ça que les gens aiment dans ton public aime, hein, c'est que c'est clair. Tu as l'impression que tout le monde peut faire du SEO avec toi.
En tout cas, ce que j'essaye de montrer, c'est que tout le monde peut au moins commencer et comprendre les bases en SEO. C'est sûr qu'on ne deviendra pas consultant en suivant mes conseils, mais par contre, si tu as un petit site avec des problématiques qui sont assez classiques, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, ça peut être intéressant de commencer à s'intéresser au SEO, ne serait-ce que pour éviter de faire les grosses boulettes parce qu'on n'a aucune idée des bonnes pratiques de base. Moi, c'est plutôt, tu vois, ce type de public-là que je vais adresser. Et puis, finalement, ça me permet aussi de faire venir des prestations par la suite. Donc, c'est tout bénef.
Ce que je te propose, c'est qu'on commence tout doucement. Et puis que tu commences peut-être par nous raconter un petit peu ton parcours, parce que je ne pense pas que tu te sois un jour auto-généré en queen du SEO. pour le coup, d'ailleurs, tu pourrais le mettre en baseline, la queen du SEO. Non, ça fait un peu boomer quand même.
Un peu prétentieux aussi. Hein.
Ouais, j'avoue. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et puis justement ce qui t'a mené un jour vers le SEO, parce qu'a priori, c'est quand même un truc qui est super aride.
Ouais, je suis née en janvier de l'an 1000.
C'est vrai, ça.
On va sauter quelques étapes. Hop là. J'ai fait deux masters parce que j'adore apprendre. J'aime bien l'école. Je suis très curieuse de tout, etc. J'ai étudié l'urbanisme, la gestion de projets européens, etc. Ce qui est 100% connecté avec le SEO, tu t'en doutes bien.
C'est clair. D'un seul coup, tu deviens limpide.
Voilà, fin de l'explication. Non, à ce moment-là, j'étais en France et en fait, j'avais beau avoir des super recommandations, etc. Moi, ce que je voulais faire, c'était du développement économique des territoires. Donc, en gros, prendre les avantages, les inconvénients ou les faiblesses d'un territoire et puis essayer de le rendre riche et puissant en jouant sur ses caractéristiques. Sauf que il y a pas vraiment d'école pour faire ça et on m'a quand même plus ou moins fait comprendre que c'était plutôt un truc qu'on faisait en fin de carrière, tu vois, quand on avait 50 ans, un réseau long comme les trois bras.
Ça, c'est horrible. Tu vois, ça, c'est vraiment la vision vieille, en fait, du business, tu vois. Tu y arriveras à la fin quand tu auras un réseau énorme, en fait.
Ben, tu sais, j'ai fait mon deuxième master, alors parce que j'aimais beaucoup ça, mais aussi parce qu'à l'époque, mon maître de stage avec qui je m'entendais très, très bien et qui m'a appris plein de choses. Mais moi, j'ai un an d'avance et je n'ai pas sauté de classe ou quoi que ce soit. Donc, quand j'ai fini mon premier master, j'étais assez jeune. Je devais avoir 20 ans ou 21 ans, tu vois, vraiment jeune. Mmh. Et il m'a dit non, mais enfin, alors pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais pour les autres, tu sais, cette petite phrase de genre, ah non, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. et en gros, il m'a conseillé de faire une année d'études supplémentaires pour ne serait-ce que gagner un an. Parce que en tant que femme de 21 ans, comment ça, tu vas aller discuter avec les chefs d'entreprise, tu vois?
C'est horrible.
Bah, à l'époque, je n'ai pas vu le problème. Je me suis dit, oh chouette, je vais pouvoir faire une autre année d'études. Mais bon, ça ne m'a pas aidée non plus parce que je ne trouvais pas de travail. Donc, j'ai commencé à avoir un job alimentaire qui était tout pourri. Et puis, j'ai rencontré mon copain de l'époque, qui est mon ex maintenant. Et on a commencé à se dire qu'entreprendre, c'était peut-être pas mal. Donc, on a commencé à vouloir monter des business en France et tout. On a plusieurs idées. Et en fait, on se prenait plein de portes. Donc, c'était un peu chiant. On a décidé de partir au Mexique pour changer un peu d'air.
Ouais.
Et au Mexique, plein de choses sont possibles. Donc, on a effectivement entrepris. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à mettre les mains dans le cambouis du SEO. Parce qu'à ce moment-là, j'ai investi dans une clinique de nutrition, ce qui n'a encore rien à voir.
Ouais, c'est marrant, c'est marrant.
Et donc voilà.
C'était qui tes clients? C'était des gens qui étaient au Mexique ou c'était des gens qui étaient en France?
Ouais, alors moi, je n'étais pas du tout ni docteur, ni nutritionniste, ni quoi que ce soit. Hein. J'étais associée avec des professionnels de santé. Et en fait, mon job, bah, c'était de mettre de l'argent et de gérer bah, toute la vie quotidienne de la clinique. Donc, ouais. Les clients, c'était les Desperate Housewives mexicaines avec un très haut niveau de revenus et qui n'ont pas d'autre chose à faire de leur journée que de s'occuper d'elles et de discuter entre copines. Donc, elles sont très, très heureuses comme ça. Et voilà. Et puis, il y a une grosse demande aussi au Mexique parce qu'il y a énormément, tu vois, de problèmes de surpoids, d'obésité, etc. Mmh. Donc, ça marchait bien. Je m'occupais de, entre autres, toute la partie, ben, tu vois, marketing, etc. Et puis, en parallèle, j'ai développé une marque de décoration murale en bois. Donc, ouais. J'ai monté mon site, machin. Et bah, une fois que le site est monté, tu te rends vite compte que personne ne vient dessus.
c'est un peu ce que je suis en train de vivre en ce moment, tu vois. J'ai fait un super site et puis en fait, je vois mes visites, tu sais, au compte-gouttes. Et c'est très dur.
Ouais, bah, c'est-à-dire, c'est un peu comme si tu ouvrais un magasin au milieu de la Creuse et que tu préviens personne que le magasin est ouvert, quoi. Il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne, sauf si on passe devant par hasard.
C'est un peu ça.
Donc, voilà, du coup, entre ces deux premiers trucs où bah, c'était mes business, donc il fallait que je fasse venir des gens sur les sites, j'ai commencé à me renseigner, à m'intéresser un petit peu. Et puis finalement, ça m'a vraiment plu. Donc, j'ai creusé vraiment le sujet, j'ai monté d'autres sites pour faire des tests, pour voir un peu comment ça marchait, etc. Et puis, il y a un truc qui s'est passé dans le monde qui s'appelle le Covid. Et là, alors au Mexique, gros coup d'arrêt parce que moi, j'avais 5 employés qui étaient des docteurs, des nutritionnistes, donc des gens avec un salaire relativement élevé quand même. On était positionnés assez haut de gamme, donc avec bah, pas mal de charges fixes. Et il fallait que je les paye avec mon propre argent parce qu'au Mexique, on a eu le droit de fermer les entreprises, mais on n'a pas eu d'aide du tout. Mmh. Ça a duré un an et demi. Donc, voilà, c'était possible les premiers mois. Je pense que j'ai tenu 6-8 mois à tout payer sur mes propres deniers, mais c'était compliqué. C'était plusieurs milliers d'euros par mois à sortir, tu vois. Et en même temps de ça, ma marque de déco, où là, mes clients étaient principalement en France ou en Europe, les frais d'envoi ont complètement explosé, mais c'était devenu inentendable, en fait, pour les clients. Mmh. Donc, j'ai même plus eu envie, tu vois, de continuer à développer ce marché-là, parce que je me disais, mais non, c'est pas possible de demander 80 euros de frais d'envoi sur un truc avec des tarifs négociés. Enfin, voilà, c'était pas possible. Donc, j'ai développé un petit peu la clientèle mexicaine ici. Mais voilà, mine de rien, gros, gros coup d'arrêt sur mes deux activités. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que le SEO m'est apparu comme une grande évidence.
Et pourquoi le SEO plutôt que, par exemple, je ne sais pas, le community management ou…
Déteste les réseaux sociaux.
C'est pas vrai, arrête.
Bah, en fait, je suis sur LinkedIn et ça me plaît bien parce que j'y apprends des trucs, mais tu vois, tout ce qui est Insta, TikTok, Snap, Be Real, tout ça, je n'y vais pas, mais du tout. J'ai un compte Insta sur lequel j'ai pas posté, je pense, depuis 2008. Si je regarde les stories de mes potes, tu vois, mais non, je suis pas du tout réseaux sociaux. Donc, ça aurait été la plus grosse angoisse de ma vie d'être community manager. Et c'est une des autres raisons qui ont fait, tu vois, que j'ai mis aussi un coup de frein à ma marque de déco. C'est parce que j'avais beaucoup de business qui, en plus du site, passait par Instagram. Et ça commençait à me saouler, en fait. Enfin, c'est pas un truc que j'apprécie.
Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Instagram, typiquement, c'est horriblement chronophage, tu vois. Donc, à un moment, à part avoir vraiment envie de se plomber sa vie, c'est le seul objectif qu'on peut avoir à créer un compte Instagram, tu vois.
Ouais, puis moi, j'étais en B2C en plus. Donc, si tu veux, pour aller choper des clients, j'étais obligée d'aller dire à Marie Tartine qui monte son cul en Thaïlande que c'est formidable. Et ouais. Ça ne m'intéressait pas, tu vois.
Et puis, en plus, d'avoir vécu en B2C, les gens, en fait, prennent les réseaux sociaux comme aussi leur service client, tu vois. Et donc, au final, tu passes ta vie sur les réseaux sociaux. Donc, ouais. Je sais pourquoi tu as choisi le SEO.
Et puis, pourquoi le SEO plus que, tu vois, le développement ou quoi? Je me suis posé la question aussi parce que j'aime bien, tu vois, résoudre des problèmes, tous les trucs un peu logiques, comment on va pouvoir trouver une solution à ça, ça me plaît bien. Mais il y avait plus de créativité dans le SEO pour moi, même si ça reste quand même assez cadré. Ben, d'un côté, tu vois, par exemple, avec la rédaction, moi, j'aime bien.
Ouais.
Donc, voilà, ça... Je sais pas pourquoi plus, mais ça me permettait aussi, tu vois, de créer un peu la vie dont j'avais envie. C'est-à-dire que pour moi, c'était devenu très important d'avoir un boulot que je puisse faire n'importe où dans le monde. D'accord. Même si à ce moment-là, j'étais déjà au Mexique et que je bougeais pas. Tu vois, je suis pas digital nomade ou quoi que ce soit. Ça fait 5 ans que je suis au Mexique et je voyage comme tout le monde, mais j'ai vraiment mon QG qui est ici. Donc, ouais, c'était important pour moi d'avoir un travail qui soit digital.
Bah, justement, c'est quoi qui t'a donné envie à un moment d'aller vivre au Mexique ?
Avec mon ex, on avait très envie d'entreprendre et en France, c'était devenu un peu compliqué. Notre dernier projet, je me suis pris un nom des banques qui m'avaient dit jusqu'à présent « Oh, mais c'est vraiment qu'une formalité, vous avez un super dossier, il n'y a pas de problème et tout ». Et au moment où je me suis pris ce nom, j'étais en train de faire de la plongée en Indonésie avec mon papa. Et je me suis dit, ben en fait, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de plage, j'ai envie de trucs un peu plus chill, tu vois, que ouais. Le centre-ville de Lyon, que j'aime pourtant beaucoup aussi, hein, mais voilà.
Mais c'est pas la même, on va dire que c'est pas la même expérience.
Non, c'est ça. Et mon copain à cette époque-là, lui, il avait un ami d'enfance qui vivait au Mexique, dans le Yucatan, et qui vivait sa meilleure vie. Il était marié avec une Yucatèque et ça avait l'air de très, très bien se passer. Et il nous a dit, venez. Et en fait, c'est vrai que le Mexique, ça remplissait pas mal de critères parce que tu vois, c'est un pays avec une langue qu'on peut apprendre assez facilement, contrairement par exemple aux pays asiatiques où si tu veux te mettre au thaï, c'est tout de suite un autre challenge, tu vois. C'était pet friendly parce qu'on avait un chien à faire venir. Il fait beau, il fait chaud. À cette époque-là, le niveau de vie était très intéressant aussi. C'est plus tant le cas maintenant parce que ça a vraiment augmenté, mais de dingue dans notre région en tout cas. Mais à cette époque-là, tu vois, en venant avec des euros, ça te permettait quand même de monter un business et de faire un truc.
OK.
Et puis, c'est la facilité, en fait, de faire plein de trucs. Tout est possible au Mexique. Donc, tu as une idée, bah, OK, tu vas la mettre en place assez facilement. Et puis, ils ont vraiment la culture du MVP, tu vois, de lancer un truc et de voir si ça marche ou pas. Ils vont pas te compliquer la tâche au début. Et
Ouais,
ça, c'est hyper agréable.
finalement, ils ont une mentalité qui est très américaine, en fait, à ce niveau-là.
Oui, et aussi, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans la culture mexicaine qui est basée avec la différence par rapport à la notion du temps. Alors, par
D'accord.
exemple, je trouve qu'au Mexique, dans les pays latins en général, le temps, ça va être plutôt un cercle. C'est-à-dire que bah, ce qui ne se passe pas aujourd'hui, ça se passera demain et ce n'est pas très grave. Alors qu'en France, par exemple, on va avoir vraiment le temps comme une ligne. Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, bah, tu as perdu ton temps, tu vois. On dit le temps, c'est de l'argent et on est toujours un peu stressé par le temps, le fait d'arriver à l'heure, etc. Et ça se traduit vraiment dans plein, plein de trucs au quotidien. Par exemple, les Mexicains, bon, je pense que c'est de notoriété publique qu'ils ne sont pas les plus ponctuels du monde. C'est-à-dire que moi, j'invite des potes à manger, ils vont arriver avec 3 à 4 heures de retard sans aucun problème, tu vois. Et ils vont me dire, bah oui, mais maintenant je suis là, enfin, qué pedo, tu vois, genre, elle est où la bière, machin, vas-y, on y va, on profite du moment. Et ça, pour moi, c'est un peu difficile parfois encore à
J'imagine.
comprendre. Mais d'un autre côté, tu vois, ça leur permet de, par exemple, jamais faire de plan à moyen terme ou à long terme. Et par exemple, à la clinique, donc nous, on a proposé évidemment d'avoir des contrats de travail à tout le monde. Après, la culture de l'informalité est très présente. Mais sur les 5 employés qu'on avait, il y en a 3 qui ont refusé les contrats de travail, alors que c'est des gens très, très éduqués, etc. Hein, mais parce qu'ils allaient perdre en fait 10% de salaire immédiat contre une assurance maladie, une assurance chômage, une retraite, des indemnités en cas de licenciement, etc. Mais ils ont dit, bah non, moi aujourd'hui tout va bien, pourquoi est-ce que je perdrais 10%, tu vois? Alors qu'en France, on a l'assurance maladie, la retraite, le PEL, le machin, l'assurance vie et tout, et on a notre vie qui est tracée sur 10, 15, 20 ans.
Ouais, puis le CDI, c'est un peu le Graal, en fait, pour plein de gens. Tu vois, avoir un CDI, c'est ça qui t'ouvre, bah, les portes des banques, de tout ce que tu veux, en fait.
Ouais, c'est ça. Alors que tu vois, par exemple, pendant le Covid, au Mexique, les gens, ils se sont rendus compte que, OK, leur business actuel, il n'allait pas pouvoir fonctionner. Je te jure qu'en 3 jours, ils étaient déjà en train de poster sur Facebook. Oui, alors du coup, moi, je vais déménager dans telle région. Alors, je sais faire des tacos et réparer des voitures. Qui s'associe avec moi, tu vois?
Génial.
Et les gens, ils pivotent à une vitesse. C'est impressionnant, hein?
C'est génial. Mais il y a peut-être quand même des inconvénients, en fait. Parce que là, pour le coup, tu me vends du rêve. Il y a des inconvénients à bosser au Mexique quand même.
Ouais, bah alors tu vois, moi qui suis par exemple très ponctuelle, etc., j'aime beaucoup l'imprévu et le fait de pouvoir m'adapter, mais ce fait d'être informel en permanence et en fait rien n'est grave, tu vois, bah tu cours toujours après les gens. Par exemple, hier, il y a une personne qui devait venir pour nettoyer ma piscine. Bon, bah, elle n'est pas venue, elle m'a pas prévenue, et elle devait venir hier, mais elle devait aussi venir avant-hier, et elle viendra pas aujourd'hui non plus, et elle va se pointer vendredi à 14 h comme une fleur. Coucou, elle est où la piscine? Bah, moi, j'ai fait venir quelqu'un d'autre, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est un exemple parmi des tonnes, en fait. Tu peux pas compter sur les gens. Donc ça, c'est problématique pour moi qui ai tendance à prendre un oui pour un oui et un non pour un non, quoi.
Bah ouais, puis je pense que même en termes de business, c'est beaucoup plus, enfin, c'est compliqué de fonctionner autrement, tu vois. En tout cas, moi, j'ai du mal effectivement à imaginer en termes de business, parce que moi aussi, je suis un peu psychorigide sur ces choses-là, qu'on puisse me dire, on verra, en fait.
Ben, en fait, les Mexicains en général ont énormément de mal à te dire non. Parce que non, ça va être d'une part se fermer une porte et puis d'autre part, ben, peut-être pas être très sympathique entre guillemets avec toi ou quoi. Là où en France, on préfère 1000 fois te dire bah non, écoute, sur ce projet-là, je peux pas t'accompagner ou je suis pas dispo ou j'ai pas envie de venir à ta fête ou peu importe. On dit non, voilà, il n'y a pas de problème. Ici au Mexique, on va te dire ah, déjame pensarlo. Genre, laisse-moi réfléchir à ça ou bien ah, je dois en parler à mon mari ou ouais, t'es à Wisso, je te préviens, tu vois.
Ouais.
Tous ces trucs-là, ça veut dire non, mais on va pas te le dire. Donc, des fois, tu demandes un devis et on va te prendre toutes les caractéristiques de ton projet. Donc, toi, tu passes 2 heures à faire ton truc, à savoir exactement ce que tu veux demander, etc. Et le gars, il te ghost et tu lui renvoies 3-4 messages genre « Eh oh, mon devis !» Et en fait, le gars va te dire « Ouais, ouais, ahorita, genre je vais te l'envoyer, tu vois.
Mmh. »
Mais ça ne va jamais arriver. C'est juste qu'il n'a pas envie de te dire non au cas où un jour, tu aies de nouveau besoin de lui, tu vois. Et d'accord. Moi, tu me ghostes comme ça pendant 2 mois, il n'y a aucune chance que je te rappelle. Ouais, tu
c'est
vois.
Clair, c'est évident.
Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et des exemples, on ne va pas faire tout le podcast là-dessus, mais je pourrais t'en parler pendant 6 heures, quoi.
Bah, par contre… Aujourd'hui, tu as quand même des clients, pour le coup, qui sont plutôt en France, sur la partie SEO. Eux, comment ils le vivent, en fait, le fait que tu sois au Mexique, qu'il y a un gros décalage horaire, justement. Est-ce que pour eux, ça leur pose un problème, en fait, tes clients français, que tu sois aujourd'hui au Mexique, est-ce qu'ils ont, enfin, tu vois, par exemple, sans doute qu'ils t'ont, pour le coup, ils t'ont jamais rencontré, tu vois, ce genre de choses. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que tu as réussi à imposer d'une certaine manière ton style de vie à tes clients?
Eh ben, tu vois, au début, quand j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn, je me suis posé la question. Est-ce que je dois être frontale et que ça fasse partie de ma com, le fait que je sois au Mexique, etc. Ou est-ce que, entre guillemets, pas que je le cache, mais que je ne communique pas dessus. Et puis, je me suis dit, bah, les gens vont très facilement s'en apercevoir parce que je vais leur proposer des réunions à partir de 16 heures, parce que mon entreprise est immatriculée au Mexique. Donc, je me suis dit, bah, en fait, autant jouer la carte de la transparence. Et puis, bah, mine de rien... Je préfère attirer des gens qui vont plus me ressembler et pour qui ça ne va pas être un problème. Donc, typiquement, c'est dans ma tagline sur LinkedIn, quoi. C'est le SEO depuis le Mexique. Donc, les gens qui sont gênés par ça ne me contactent pas, simplement.
D'accord. Et pour les autres, comment est-ce que ça se déroule, en fait?
Alors, je vais plutôt avoir, tu vois, mes rendez-vous clients le matin.
Ouais.
Donc, là, on est passé à 8 heures de décalage, mais pendant 6 mois de l'année, on a 7 heures. Pour être honnête, je fais assez peu d'efforts, c'est-à-dire que voilà, je vais dire que je suis dispo à partir de 16 heures en France. C'est entre guillemets à prendre ou à laisser, sauf cas très exceptionnel, mais j'ai pas envie, tu vois, de me mettre un réveil pour avoir des calls à 6 heures du mat chez moi, quoi. C'est pas, je suis pas venue là pour souffrir.
Non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Ou en tout cas, si tu te lèves à 6 heures, tu sais, pour faire autre chose, tu vois.
Je me lève pas à 6 heures.
Ah ouais, c'est ce qui nous différencie alors. Tu sais, moi, le matin, c'est 4h30, 5h. Mais bon, c'est un autre problème.
Ouais, non, en fait, voilà, dès le départ, vu que les gens le savent, c'est pas du tout un frein. Et puis après, j'ai mine de rien assez peu, tu vois, de rendez-vous synchrone. Une fois que le projet est lancé, je vais faire mon truc de mon côté, on va faire beaucoup d'échanges par mail ou par WhatsApp, etc. Je vais avoir de temps en temps des rendez-vous, tu vois, pour faire des points de suivi ou des restitutions. Mais sinon, les calls que je vais avoir, ça va soit être des appels découvertes, soit bah, ça va être, tu vois, comme maintenant, pour enregistrer des podcasts ou pour faire des trucs qui sont un peu à côté du business, on va dire.
Okay.
Donc, non, honnêtement, j'arrive très bien à gérer ça. Et du moment que les gens le savent dès le départ, ça se passe très bien. Et tu vois, même pour mes coachings, il y a des gens qui préfèrent avoir les coachings vers 20h, 21h, 22h en France parce que c'est la fin de leur journée. Ils savent qu'ils sont tranquilles, ils vont pouvoir se poser sur le sujet du SEO. Et c'est pas un truc au milieu de leur journée. Non, ils font ça tranquille une fois que leur...
Ouais, ils ont vraiment toute leur bande passante de cerveau disponible, en fait.
Ouais. Et puis voilà, si ça pose un problème à quelqu'un, je pense qu'il y a suffisamment de consultants SEO qui sont très compétents sur le marché et qui vont pouvoir répondre aux problématiques de quelqu'un qui a besoin d'avoir une personne sur le fuseau horaire français, tu vois.
Bien sûr. Alors pour le coup, justement, toi, tu vis en décalage. En même temps, tu as plein de passions. Hein, et comme je l'ai dit au début, pour le coup, tu es une grande fan de kitesurf. Tu m'as avoué l'autre jour que tu testais des nouvelles figures. Donc, comment est-ce que tu arrives justement à équilibrer en fait les choses, à équilibrer ta vie pro, ta vie perso, Comment tu t'organises pour pouvoir consacrer du temps à ta passion?
Bon, si je te disais que c'était hyper facile et que j'arrive trop, trop bien à gérer. Voilà, exactement, on ne va pas se mentir. Hein.
Ah, tu sais, moi-même, pratiquant un sport et j'y consacre 2 à 3 heures par jour, je vois bien que c'est difficile, tu vois. Donc, il y a un vrai… C'est pour ça que je te pose cette question, parce que je suis très curieux de voir comment toi, tu t'organises.
Eh bien, en fait, le matin, quand je me réveille, je vais regarder mes mails, les différentes notifications que j'ai eues, etc., et la météo. Ouais. Pour savoir, tu vois, à quelle heure le vent va souffler dans la journée, s'il va y avoir du vent ou pas. Parce que ben, le kitesurf et de façon générale les sports outdoor, mais le kite plus particulièrement, bah, tu es vraiment dépendant des conditions climatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent, tu ne vas pas sortir, quoi.
Bah, oui.
Donc, je regarde la météo. En général, ici, on va dire 80% du temps, on va avoir du vent plutôt dans l'après-midi. Ce qui, moi, me convient très bien parce que ça me permet de faire mes calls le matin. Donc, en gros, ouais, le matin, je vais faire mes rendez-vous clients, je vais gérer des trucs qui ne me prennent pas trop de cerveau après ça, on va dire. Vers midi, je vais faire un peu de sport à la maison. Et puis après, je vais me faire une session, tu vois, de genre 2 heures de deep work. Vers 4 heures, je vais aller kiter de 4 à 6. Parce qu'en fait, je suis obligée de l'intégrer dans ma journée, vu que ici, le soleil se couche relativement tôt. À 6h, 6h30, il n'y a plus de soleil. Donc, si je passe ma journée de taf en me disant « ouais, j'irai kiter après », bah non, c'est mort parce qu'il n'y a plus de soleil. Donc, en fait, je l'intègre, si tu veux, vraiment dans mon planning. Et je sais que aujourd'hui, vers 4h, je vais sortir pour 2h. Et je rentre à 6h, tu vois, je vais manger un petit bout, machin, et je me remets à bosser après, en fait. Donc, ma journée, elle n'est pas vraiment classique, horaire de bureau ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi, ça me convient comme ça parce que finalement, je fais mes activités hors boulot dans l'après-midi et puis je retourne travailler après s'il y a besoin, quoi.
Alors, comment tu fonctionnes, justement moi, par exemple, pour te donner, pour t'expliquer ce que je fais, c'est que moi, par exemple, quand je planifie ma semaine, je commence vraiment ma semaine en planifiant que, justement, ce qui relève du perso et de ma passion.
Trop bien.
Donc, en fait, je commence ma semaine en disant, bah voilà, de telle heure à telle heure, je vais aller courir, tu vois. Après, je planifie toutes mes tâches, tous mes éléments très perso. Et après, je me dis, bon, bah, au milieu, voilà, il y a le pro.
Trop bien.
C'est un système qui fonctionne plutôt pas mal parce que pour le coup, je privilégie mon propre développement personnel parce que je sais que c'est important. Toi, comment tu planifies justement les choses ?
Alors, j'ai tout dans mon Notion. S'il plante un jour, je meurs. Je fais des sauvegardes de temps en temps. Mais sur mon Notion, tu vois, j'ai tant le pro que le perso. Et je vais avoir en fait une roadmap. Chaque dimanche, je vais venir me faire des blocs justement avec les choses que je vais faire. Ouais. Je vais complètement mélanger, comme toi, le pro et le perso. Par contre, je ne fais pas du tout, tu vois, du time blocking ou des trucs comme ça. Ça ne marche pas du tout chez moi. Donc, je sais ce que j'ai à faire dans ma semaine. Je sais que je vais avoir potentiellement des deadlines qui ne sont pas modifiables dans la semaine. Mais par contre, il y a pas mal de trucs qui peuvent bouger. Et tu vois, si je sens que j'ai moins d'énergie à un moment, et ben, je vais peut-être faire un truc qui va être un peu moins demandeur et puis inverser 2 journées ou des choses comme ça. Mais voilà, je sais que globalement, je me planifie en fait une certaine quantité de travail dans la semaine, ce qui va me laisser toute la latitude à venir intégrer et ben, mon sport, mon kite ou mon paddle ou mes barbecues sur la plage avec mes potes. Mmh. Ou tu vois, vendredi, je suis partie toute la journée pour faire du voilier. Lundi, je suis allée faire du kayak avec les crocos. Enfin, tu vois, voilà. C'est plutôt en termes de quantité de taf que je vais me mettre sur la semaine que je vais pouvoir gérer et venir organiser mes journées comme ça. Mais voilà, c'est pas bloqué avec des horaires fixes sur la journée.
Tu sais, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, pour le coup, et puis j'en vois hein, sur LinkedIn, notamment, mais j'en connais aussi beaucoup, qui ben, entreprennent et puis qui, ben, au final, se retrouvent assez rapidement en souffrance. Et c'est aussi pour ça hein, que j'ai créé ce podcast. C'est pour leur montrer qu'il y a peut-être d'autres manières d'entreprendre que de se mettre dans le mal. Je pense qu'on est d'accord. Selon toi, c'est quoi les ingrédients? Je sais pas s'il y a des ingrédients, mais en tout cas, j'aime bien cette idée d'ingrédients, de petites choses qu'on peut ajouter dans sa vie, qui permettent de s'épanouir quand justement on entreprend, de pas vivre l'entrepreneuriat comme quelque chose de lourd, mais de le vivre comme quelque chose de, peut-être pas d'ultra léger, mais en tout cas quelque chose de cool qui en tout cas nous fait kiffer au quotidien.
Bah, je pense que déjà, il faut avoir conscience que ça reste un travail, tu vois. Là, on est en train de dire, oui, vas-y, moi, je fais du kitesurf tous les jours, machin. Toujours est-il qu'il y a du taf derrière quand même. Moi, je fonctionne vraiment par cycle où je vais venir charbonner pendant quelques semaines ou quelques mois pour lancer les bases d'un nouveau projet, ce qui va me permettre ensuite d'être beaucoup plus chill et de pouvoir... consacrer beaucoup plus de temps à mon épanouissement personnel, etc. Mais si on part du principe que « Oh, vas-y, je vais entreprendre parce que j'en ai marre de la rat race, d'être dans un open space… »
C'est quoi la rat race? Enfin, moi, je le sais, mais c'est pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que la rat race.
Ah, je ne sais même pas trop comment je le définirais, tu vois, mais c'est le fait d'être un peu, tu vois… Dans son clap-pied à lapin, j'ai envie de dire.
Ouais, un peu comme le hamster qui court dans sa roue, en gros.
Ouais, c'est ça. Et de toujours courir, tu vois. Le matin, tu vas attendre la pause de l'après-midi. Et puis l'après-midi, tu vas attendre de rentrer chez toi le soir pour te reposer. Et puis la semaine, tu vas attendre le week-end. Et puis le week-end, tu vas attendre les vacances. Et puis les vacances, tu vas attendre la retraite. Tu vois, d'être toujours un peu dans ce truc... t'as pas vraiment de perspective de développement personnel ou d'évolution personnelle où finalement tu te poses pas trop de questions, tu fais le taf qu'on te demande, ça te plaît pas, c'est pas tellement la question centrale, mais voilà, t'as cette sécurité, cette tranquillité et c'est pas mal non plus, hein. Je connais plein de gens qui sont super épanouis dans ce modèle-là parce qu'ils ont pas de responsabilité, de pression de savoir, tu vois, comment va se terminer le mois. Donc, pour revenir à ta question de quels sont les éléments, tu vois, pour s'épanouir en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il faut déjà avoir cette conscience que finalement, ton travail, enfin, ce que tu vas vendre, ça va être peut-être, si je suis gentille, 50% de tes journées. Ouais. Donc, il faut avoir conscience que tu ne vas pas faire ce que tu penses faire. À la base, par exemple, j'en sais rien, si tu te lances en, je dis n'importe quoi, comptable freelance, je ne sais pas si ça existe. Ouais. Mais
ça existe, j'en ai vu et j'en ai rencontré.
Bah voilà, bah, tu ne vas pas faire de la compta de 8h à 17h, quoi. Tu vas faire de la compta de 12 à 14. Et le reste du temps, bah, tu vas faire de l'administratif, tu vas faire du développement de ton business, tu vas faire de la com, tu vas faire tout un tas de trucs que tu peux aimer ou pas, mais je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ça. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens se planter. Justement, tu vois, par exemple, quand je me suis formée en SEO, j'ai fait une formation longue en rédaction web qui durait 8 mois quand même, tu vois.
Sacrée formation, ouais.
Oui, oui, bah écoute, quand je me forme, quoi.
Oui, t'as raison, hein, faut y aller.
Mais ouais, et en fait, il y a énormément de gens qui étaient en reconversion. 95% des gens, c'était des reconversions. Et actuellement, ils ont énormément de mal à s'en sortir parce qu'ils n'avaient pas du tout conscience du fait qu'ils allaient devoir passer peut-être une journée par semaine à faire du développement de réseau, à faire du marketing, à aller chercher des clients, peut-être à créer une newsletter ou des trucs comme ça, tu vois. Ils n'avaient pas cette fibre entrepreneuriale qui, du coup, leur pose vachement de problèmes parce qu'ils ont maintenant un peu tous les inconvénients de l'entrepreneuriat dans le sens où ils ont l'insécurité de savoir s'ils vont avoir un salaire à la fin du mois. Mmh. Et en même temps, ils sont toujours un peu dans cette rat race où ils sont vraiment en posture, tu vois, d'exécutant, mais pas du tout de consultant ou de partenaire avec les clients. parce qu'ils attendent un client qui va leur dire, bah voilà, rédige-moi un article de 2000 mots pour mardi prochain sur ces mots-clés-là.
Ouais. Donc, il va chercher à négocier un prix le plus bas possible parce que, bah, pour le coup, la personne n'a pas travaillé tout le reste, en fait. Ouais. J'en parlais hier avec, sur LinkedIn avec un ami et je lui disais, bah, finalement, quand tu ne communiques pas, la seule chose qui te différencie des autres, c'est le prix. Et donc, bah, t'es dans, c'est là où tu te retrouves dans la rat race, justement, bah, parce que bah, t'es là, en fait, juste à argumenter un prix et puis à baisser ton prix pour choper la presta, tu vois.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il y a un autre problème aussi qui est qu'on a tendance à beaucoup se comparer et ça peut, tu vois, ça peut freiner un peu ce fameux épanouissement parce que tu vas comparer la scène de ceux qui fonctionnent bien avec tes coulisses à toi, tu vois. Donc, sur les réseaux sociaux, même si tu peux avoir un peu de building public et tout, quand tu es en boule à pleurer au fond de ton lit, tu ne fais pas un poste, tu vois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont l'impression que c'est toujours tout beau, tout rose partout, alors que tout le monde a des moments un peu plus down où tu te poses plein de questions, où tu n'as pas le temps de rien faire et tout. Donc, le fait d'arrêter de se comparer, de faire chacun avec les moyens qu'on a, avec les ambitions qu'on a, c'est très bien. Le fait d'apprendre à s'organiser aussi, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Si tu n'es pas organisé, tu peux très facilement pas t'arrêter de bosser, te réveiller le matin avec ton ordi dans le lit et te coucher le soir avec ton ordi dans le lit, pareil.
Donc, toi, j'ai bien compris que l'organisation, c'est sur Notion, en fait.
Ah ouais. Moi, je fais vraiment tout sur Notion. Et ouais, j'ai mes projets qui viennent s'intégrer sur mon calendrier. C'est tout organisé dedans. J'ai tous mes templates.
Pareil, hein, moi j'utilise Notion, je gère tous mes dossiers, tous mes clients avec et je gère toute ma vie en fait avec. Donc, c'est un outil génialissime hein, qui a changé ma vie en profondeur.
Moi aussi. Et puis, je mélange vraiment le pro et le perso, tu vois. Ce n'est pas un outil pro pour moi, c'est vraiment, c'est tout mélangé, quoi.
Ça faudra que tu me montres. Alors, moi, c'est très pro. Mais pour le coup, c'est bien parce que ça me libère toute la bande passante de cerveau pour voir justement ne penser dans ma journée qu'au perso.
En fait, tu vois, je mélange vraiment beaucoup le pro et le perso, moi, dans ma vie. Et par exemple, quand je définis mes KPIs pour mes trimestres, je vais avoir autant des trucs pro que perso. Genre, là, tu vois, je ne les ai pas encore faites parce que je suis en retard pour le trimestre qui arrive. Mais je vais avoir des trucs comme développer mon CA, créer un nouveau produit digital, etc. Et je vais avoir maîtrisé 5 nouvelles figures de kite dans mes KPI, tu vois.
D'accord. OK. Non, mais je vois bien. Hein. Moi, je le fais peut-être pas forcément que sous forme d'objectif. En fait, c'est assez marrant. Je pense que je suis plus ambitieux en fait pour mes trucs perso. Tu sais, le sport c'est pour moi un truc important, tu vois, et pour le coup je prépare des gros trucs, donc c'est. Mais je vais pas les formuler de la même manière, tu vois. Mm-hmm. J'ai plutôt me dire, bah, par exemple, tu vois, là en ce moment le cap que j'essaye de passer, c'est le cap des 150 km de running par semaine.
Ouais.
Tu vois, là, je suis à 140, il faut que je passe le cap des 150. Et tu vois, c'est plus comme ça que je raisonne, tu vois.
Ouais. Ben, en fait, moi, je vais traquer beaucoup de choses, mais c'est pas pour être psychorigide avec moi-même, c'est plus parce que, comme on dit toujours, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure, tu vois.
Ouais.
Et donc, chaque soir, par exemple, toujours dans mon Notion, je vais venir traquer si j'ai dormi 8 heures, si j'ai ri, si j'ai appris, si j'ai écrit. Trucs comme ça, tu vois. Et puis, je vais venir aussi rajouter qu'est-ce que j'ai mangé, quels étaient mes bons moments de la journée, de quoi je suis reconnaissante, etc. Ça me permet finalement d'avoir aussi une vision un peu plus globale où il y a des fois où tu dis « Oh, je suis en train de passer une période de merde ». Et en fait, quand tu regardes objectivement chaque jour mon pourcentage de satisfaction, bah, il est très, très bon, quoi. Donc, ça te permet aussi de, mine de rien, prendre du recul et te dire, c'est pas grave, si aujourd'hui, j'ai passé une journée pas top, j'ai quand même trouvé 3 super moments dans ma journée que j'ai pu mettre dans mon petit rapport journalier, on va dire. Et puis, mine de rien, quand je me pose à la fin de la journée pour savoir si j'ai apprécier cette journée ou pas. Je pense que les fois où c'est en dessous de 50% de satisfaction de la journée, ça se compte sur les doigts d'une main en un an que je traque ça, tu vois.
Et t'as pas peur de tomber dans le piège de l'optimisation à outrance ? C'est l'optimisation
non,
de soi.
Je me mets pas de pression par rapport au fait que je dois tout cocher, tu vois.
D'accord.
C'est vraiment plus pour me rendre compte que finalement, bah oui, tous les jours j'apprends des trucs. Ou c'est plus pour, tu vois, chaque fin de semaine, je vais essayer de me poser un peu pour voir ce que j'ai aimé dans ma semaine. Est-ce qu'il y avait des trucs que j'aurais pu modifier ? Mais c'est pas du tout dans le sens, oh, c'était pas parfait. Non, je m'en fous. Je cherche pas du tout la perfection. C'est plus, je vois qu'il y a des patterns, par exemple. Si tous les jours, je marque que ce qui aurait pu être amélioré dans ma journée, c'est X ou Y, bah ok, il va peut-être falloir que je commence à me poser des questions.
Si tu étais face à quelqu'un qui… si tu voyais quelqu'un là, par exemple, tu vois, un client ou qui serait vraiment justement en souffrance dans sa boîte, si tu devais lui donner trois actions très simples à entreprendre pour justement arriver à pouvoir lever la tête du guidon et puis à aller vers une vie un peu plus cool, en tout cas mieux vivre son entreprise, ce serait quoi ces trois actions concrètes que tu lui proposerais?
C'est une bonne question, ça. Je pense qu'il faudrait prendre un niveau au-dessus et pas forcément se focaliser que sur le bien-être dans sa boîte, mais vraiment sur qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, tu vois, quelle est sa vision beaucoup plus profonde de ce qui va l'animer dans sa vie. Parce que si tu demandes à quelqu'un « ça va, est-ce que tu es heureux ?» et qu'il dit « ah ouais, j'ai doublé mon CA », oui, ok, mais quel est l'objectif derrière ça? Est-ce que c'est juste de doubler ton CA? Est-ce que c'est de prouver quelque chose? Est-ce que ça va t'apporter une certaine liberté ou une légitimité ou, pourquoi tu es si content d'avoir doublé ton CA, tu vois? Je pense que les causes, elles sont vachement plus profondes et que du coup, bah, les actions à mettre en place le sont aussi beaucoup plus. Donc, je pense que la première chose que je recommanderais, ça serait vraiment de se poser les questions profondes sur c'est quoi ta vie rêvée et qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien.
Okay.
Et en quoi ton activité peut t'y aider ou au contraire te freiner pour accéder à cette vie-là.
D'accord. Donc ça, ce serait une première action.
Ouais.
Ensuite, tu lui proposerais quoi ?
De s'entourer, de discuter avec des gens.
Ça, c'est vrai que c'est important. Hein. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont super seuls. Tu vois, même sur LinkedIn, en fait, les mecs ou les nanas, hein, en fait, ils sont là, ils postent des choses, mais tu as l'impression qu'ils parlent tout seuls.
Ouais, c'est vrai.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont très, très seuls dans leur, très, très seuls dans leur taf.
Je pense que le fait d'être freelance aussi ou solopreneur ou peu importe comme tu l'appelles, le fait de travailler seul, la plupart du temps depuis chez soi, ça peut aussi beaucoup renfermer les gens peut-être. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je remarque pas du tout et que j'apprécie au contraire d'être tranquille chez moi parce que tu vois, là, on est en train de discuter, on a une conversation que j'estime de qualité. Ça me fait plaisir, tu vois, de discuter avec toi. je pense qu'il faut pas avoir peur de toquer à la porte des gens et puis de créer des liens, même si c'est des gens que tu verras pas forcément en physique. Moi, je discute toute la journée avec plein de personnes que j'ai pour certains jamais rencontrées physiquement, mais c'est pas gênant. Et pour moi, ouais, ce qui est important, ça va être de venir parler avec des gens qui peuvent être dans la même situation que toi, parce qu'il y en a forcément plein. C'est peut-être des gens qui sont plus avancés que toi en business ou moins avancés que toi, mais l'idée, c'est pas forcément, tu vois, de venir parler de business, mais peut-être aussi de mindset ou de lifestyle ou juste de comment tu fais toi, tu vois, pour prendre des rendez-vous clients ou peu importe. Mais il y a plein de trucs desquels on peut discuter avec les gens. Et c'est vrai que si tu restes dans ton salon H24 et que réponds juste à des gens par mail et tout, effectivement, ça peut être un peu compliqué de ne pas se sentir seul, quoi.
Moi, un truc que je fais et que je conseille beaucoup aux entrepreneurs, c'est par exemple, je vais travailler en coworking, tu vois. En fait, il y a 2 jours dans la semaine qui sont mes 2 jours où je m'entraîne de manière lourde, donc où je reste à la maison. Donc là, tu es sur un jour où je suis à la maison. Mais sinon, il y a 3 jours par semaine où je vais bosser en coworking. Et le fait d'aller bosser déjà en coworking et d'être physiquement en contact d'autres entrepreneurs, c'est assez marrant, mais même si tu ne parles pas de ton projet, même si tu ne les entends pas parler de leur projet, bah c'est tout con, déjà, ça structure autrement dans la tête, tu vois. Mmh. Tu n'es plus tout seul. Et puis, effectivement, hein, moi, je demande très facilement aux gens, écoute, ça ne te dit pas qu'on papote en visio, même juste pour le plaisir de papoter, un peu comme quand on a pris rendez-vous la première fois,
ouais.
Tu vois. Parce que c'est vachement sympa l'objectif, c'est même pas de vendre quelque chose, tu vois. C'est
juste... Non, toi et moi, on n'avait rien à se vendre à la base. Et
pourtant, c'est le plaisir de se dire, bah tiens, c'est cool, on noue une relation, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur LinkedIn ou sur les réseaux en général qui ne le font pas. Et je crois que c'est bien que les réseaux, en fait, ils arrivent à rejaillir sur le réel.
Ouais, carrément. Mais tu vois, c'est très rigolo parce que... Il y a plein de gens qui me demandent des fois des cafés visio ou des trucs comme ça, mais tu sens dès le départ que c'est vraiment « Oh, vas-y, je vais te le proposer sous forme de café visio, mais c'est pour te vendre un truc derrière. »
Oui.
Et ça, ça m'énerve et je n'ai pas envie de prendre le temps pour ça parce que c'est une presta qui ne va pas m'intéresser. Donc, me le vends pas sous forme de café visio, démarche-moi, tu vois. Par contre, si c'est un truc qui est désintéressé, comme ça a été le cas avec toi, juste, bah, vas-y, au lieu de parler de chat par commentaire interposé, appelons-nous, tu vois.
Bah oui, la base. Ouais, et puis, moi, je trouve que c'est, tu vois, ce côté de proposer un café visio pour te vendre un truc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me vole mon temps.
C'est ça.
Alors que, paradoxalement, j'aurais été, tu sais, la personne, si elle me démarche, bah, je peux être vachement plus attentif parce que bah, je suis dans une démarche où j'ai quelqu'un qui me prospecte. Donc, pourquoi pas, tu vois.
Ouais.
Mais par contre, c'est vrai que c'est horrible, tu vois, ces prises de contact, genre l'air de rien sur LinkedIn, alors qu'en fait, bah, on veut te vendre un truc. Et là, tu as vraiment, quand tu tombes dans le piège, là, tu te sens quand même vraiment mal, tu vois. Tu as vraiment dit, merde, on va piquer un truc, tu vois.
Ouais, exactement, exactement. Donc, c'est vrai que, bah, comme tu le disais, quoi, pas hésiter à créer des liens avec des gens, mais aussi, et j'ai envie de te dire surtout, des liens un peu désintéressés, quoi. Bah, et ça peut mener à des bons trucs, hein. Par exemple, là, il y a 3 semaines, 1 mois, je suis partie au Texas avec une meuf que j'ai rencontrée sur LinkedIn. On s'était jamais vu. Elle m'a dit, vas-y, je suis sur ton continent, on se voit. Bah ouais. Et donc, bah, j'ai pris mes billets, je suis partie une semaine au Texas et c'était cool, tu vois, c'était vraiment cool. Et sinon, je ne l'aurais jamais fait, enfin, je ne serais jamais allée à Dallas, quoi.
Bah, tu sais, alors, pour le coup, c'est pour la confidence, hein. Moi, je suis vraiment boomer, tu vois. En fait, mon plus gros réseau, certes, j'ai LinkedIn, mais mon plus gros réseau, il est sur Facebook.
OK.
Sur Facebook, dans mon réseau, j'ai... plein de gens, en fait, avec lesquels bah, j'ai construit toute ma vie entrepreneuriale depuis 10 ans. Alors, ça a été des rencontres, tu vois, mais par exemple, j'ai des gens qui bossent dans l'édition de l'époque où j'étais libraire, tu vois, j'ai des gens qui sont savonniers de l'époque où j'étais savonnier, etc. Et c'est assez marrant parce qu'il y a tout ce petit monde qui est là, qui se mélange, qui eux-mêmes rentrent en contact les uns avec les autres, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai jamais cherché à faire du business avec ces gens-là. J'ai juste été, bah voilà, on papote, c'est cool, c'est bien. Et en même temps, c'est des personnes qui m'ont vachement structuré et apporté de choses professionnellement.
Ouais, je pense que c'est de là que viennent bah, vraiment la richesse des échanges. Quand à la base, c'est un truc qui est désintéressé et que tu partages juste une passion ou un point de vue ou un moment en fait avec quelqu'un. Sans arrière-pensée de « alors attends, il a un business ou pas? Est-ce que je vais pouvoir lui vendre une presta ?» Non, on s'en fout complètement. C'est juste 2 humains qui discutent, qui ont peut-être les mêmes problématiques, peut-être même pas. Mmh. Et puis, bah, au final, c'est comme ça que se créent les relations et que ça peut aboutir éventuellement à du business ou à de l'amitié ou à de l'amour ou à que sais-je. Mais ce n'est pas l'objectif de départ, quoi.
Et notre troisième conseil, parce que pour le coup, je t'en avais demandé trois. J'ai oublié le troisième. Hein.
Le troisième conseil, d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de se comparer, d'arrêter de toujours essayer de faire plus ou mieux, mais de faire ce qui nous correspond en fait. Peut-être que quelqu'un va se sentir ultra épanoui en ayant 15 employés, en faisant 2 millions par mois, etc. Et puis quelqu'un d'autre va se sentir au contraire ultra frustré dans cette vie-là et va vouloir bosser 15-20 heures par semaine et gagner totalement l'argent, tu vois, pour payer ses factures, ou un peu plus ou un peu moins. Enfin, voilà, en fait, je pense que chacun a son modèle à trouver, quoi.
Ouais, complètement. Bah, c'est vrai qu'en même temps, c'est aussi une des problématiques qu'il y a sur LinkedIn, hein, c'est que les gens mettent vachement en scène leur vie. En fait, tu as l'impression que les gens ont des vies génialissimes en fait, dans leur business. Et donc, forcément, tu as cette tendance. Alors, moi, je ne l'ai pas du tout parce que je crois que j'ai dépassé tous les syndromes de l'imposteur. C'est d'ailleurs un vrai problème parce que je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mal à me vendre maintenant.
Okay.
C'est drôle, mais d'avoir dépassé certains trucs, je me rends compte qu'à des moments, je fais plus d'efforts pour me vendre sur les réseaux.
Parce que tu penses que c'est évident pour les gens que tu es compétent pour résoudre leurs problèmes ?
Bah, c'est même pas ça. Je me suis rendu compte que le fait que j'étais OK avec mes compétences, paradoxalement, j'avais moins la niaque. C'est okay. Drôle, hein ? C'est drôle parce que pour moi, c'est évident, tu vois. Alors que non, ça l'est pas forcément. Ça l'est pas forcément. Et je me rends compte que je suis moins agressif que je pouvais l'être il y a quelques années où j'étais à fond, tu vois. Donc c'est assez drôle, hein, tu vois.
Ouais, mais c'est pas grave parce que finalement, si ça te convient, pourquoi est-ce que tu voudrais avoir plus la niaque ?
Pas nécessaire. Non, pas du tout. Après, c'est tout bête. C'est toujours ce côté où tu te compares et où tu te dis, oh là là, il y en a, ils font des centaines de likes. Et après, quand tu regardes, tu te dis, ouais, mais moi, l'expérience, en fait, que j'aime fait dire fake. la vie ne peut pas être aussi rose que la personne est en train de nous le présenter.
Non, et puis les likes, enfin, ça, c'est... Fin... Tu vois, ça remplit pas le frigo, hein. Et justement, la semaine dernière, j'imagine que tu l'as vu passer, mais il y a eu le gros banger de 12 000 profils LinkedIn France qui utilisent des pods et qui se sont mis à commenter des articles sans même le savoir et tout. J'ai un peu de mal avec ça, dans le sens où quel est l'intérêt, tu vois, de voir des robots discuter entre eux. Genre, c'est un post qui est écrit par l'IA, qui est illustré par l'IA et qui est commenté par l'IA. Enfin, ça sert à quoi, en fait, tu vois ?
Ça n'a aucun sens.
J'ai un peu de mal avec ça. Je veux dire, j'ai aucun problème avec l'IA, mais le fait d'aller venir faire croire que tu as des interactions et tout juste pour la fame ou juste pour avoir plus de likes, qui sont des gens qui ne vont absolument jamais t'acheter tes produits ou tes services. Ça me dépasse un peu, mais bon.
Bah, tu sais, depuis que j'ai repris mon activité, je crois que j'ai rarement des posts qui dépassent plus de 20-30 likes. Mais je pense que là, pour le coup, vraiment, il y a un truc avec l'algo, mais ça, c'est un vaste sujet. mais en même temps, c'est même pas grave, puisque aujourd'hui, en fait, malgré tout, LinkedIn, ça reste mon premier canal. Ça me permet de vivre avec mon business, tu vois. Et pour autant, et si je regarde les posts qui m'ont vraiment ramené des likes directs, je crois que, tu vois, celui qui m'en a ramené le plus, qui m'a ramené 3 rendez-vous et donc 3 clients dans la foulée, c'est un post qui a dû faire 3 likes. Donc,
ton métier, c'est pas influenceur LinkedIn, en fait.
Exactement.
Donc, tu t'en fous ?
C'est souvent ce que je dis, en fait, se concentrer sur la vente et pas sur quelle image, en fait, je donne sur le réseau.
Ouais, c'est ça, exactement.
C'est quoi, pour toi, en fait, tes projets, en tout cas, parce qu'on commence à arriver vers la fin de cette interview, c'est quoi tes projets à court terme ou à moyen terme ? Même des projets perso, hein, tu as le droit de tout nous raconter, même les trucs les plus inavouables.
Allez. Ben, là, tu vois, je suis en train d'arriver vraiment à la fin d'un cycle. Je viens de mettre fin à une relation de 8 ans et demi.
Ouais.
Donc, gros changement. Donc, ça remet un peu, tu vois, tout en perspective. J'avais prévu de déménager avec lui en Espagne. Et puis, finalement, je vais très probablement aller à l'île Maurice seule.
C'est sympa, Maurice.
Ah, mais je n'en doute pas, tu vois. Mais voilà, je suis en train vraiment, tu vois, de me recentrer un peu sur qu'est-ce que je veux vraiment. Parce que finalement, quand tu es dans une relation longue, bah, tu te laisses un peu porter. Vas-y, l'autre a des projets. Bon, ça a l'air pas mal. OK, mais ce n'est pas tes projets à toi, par exemple. Mm-hmm. Des trucs comme ça. Donc, j'ai vraiment envie, tu vois, de vraiment me remettre, ça fait très égocentré, mais au centre de ma vie, en fait.
Ouais.
De faire ce qui me plaît. Donc, j'ai envie d'aller là, tu vois, sur une île tranquille, avec du soleil, avec du kite, sans pression, avec de la plongée, des gens sympas. Et puis, peut-être que ça sera pas Maurice, peut-être que ça sera, j'en sais rien, on sait pas. Mais voilà, là, pour l'instant, j'ai un aller simple. J'ai des potes qui m'attendent. Ils sont prêts à me faire des blagues et des cocktails. Donc, moi, ça me plaît bien.
En tout cas, c'est pas de retourner dans le centre de Lyon, ton projet.
Ben, alors, autant j'aime la France, autant pour y vivre, là, tout de suite, comme ça, c'est pas le truc qui me fait vibrer, quoi.
Je comprends. Je comprends.
Donc, ouais, là, je vais y passer 2 mois cet été. Je vais voir plein de gens, je vais bien profiter, ça va être sympa. Mais non, j'ai pas envie de ça pour l'instant. Après, dans un an ou deux, peut-être que ça changera complètement, mais... Là, actuellement, non, j'ai vraiment envie, tu vois, de vivre la vie dont on parlait tout à l'heure, de vivre en short, d'être sur la plage et de travailler. C'est important pour moi aussi de travailler, tu vois. C'est pas juste peace and love, mais dans un cadre plus chill.
D'accord.
Pas beaucoup de gens, mais des gens de qualité, des trucs comme ça, tu vois.
Ouais, je vois très bien. Et au niveau pro ?
J'aimerais bien, tu vois, continuer à développer mon activité pour être plus diversifiée, parce que pour l'instant, ce que j'aime dans mes journées, c'est qu'elles ne se ressemblent pas. Je fais plein de trucs différents. Je fais de la presta, je fais du coaching, mais j'adore aussi, tu vois, enregistrer des podcasts comme on est en train de le faire. On me demande de tourner des vidéos. Je fais de la création de contenu pour moi. Un peu tout ça, ça me plaît beaucoup d'avoir plein d'activités différentes en une. Et j'aimerais bien développer encore un peu plus, tu vois, différents canaux. Là, j'ai une formation à sortir. Elle est prête. Je ne l'ai juste pas marketée encore. Plein de trucs comme ça. Peut-être des conférences, peut-être un peu plus de formation. Voilà, j'ai plein d'idées. L'idée, c'est de ne pas m'enfermer dans un seul truc autour du SEO, mais de venir développer plusieurs axes autour du SEO, mais aussi de l'entrepreneuriat de façon un peu large. Voilà, m'éclater. Facturer un peu plus parce que du coup il va avoir plus de casquettes différentes et pas tomber dans la routine. C'est ça mon objectif en ce moment.
Trop bien. Est-ce que tu as des livres ou des ressources que tu aimerais recommander aux gens qui nous écoutent? Des choses, même ça peut être même un roman qui n'a rien à voir avec le SEO, hein. Un livre qui t'a quelque chose que tu as envie qu'on lise.
Je pense, ouais, il y a l'Almanach de Naval Ravikant, je pense, incontournable. Ah,
je connais pas, je l'ai pas lu.
Alors, c'est très, en fait, Naval Ravikant, donc c'est un businessman philosophe, on va dire. Je sais pas trop comment on pourrait le définir, mais c'est pas lui en fait qui a écrit ce livre. C'est un recueil de ces différents tweets et de ces différentes pensées. Donc, c'est vraiment des petits moments, si tu veux, qui sont regroupés dans ce livre-là, qui est d'ailleurs gratuit. C'était la condition pour que Naval accepte que ce livre sorte. C'était que ça soit un contenu qui soit gratuit et accessible à tous, parce que lui, son objectif, tu vois, ça va vraiment être de venir évangéliser un peu sur la richesse et le bonheur, sur l'éthique, la création de la richesse, sur l'apprentissage continu, sur la prise de décision, sur la simplicité et le bonheur, plein de choses. Mais tu vois, ça se lit vraiment, tu vois, tu vas lire 2 pages et puis tu t'arrêtes, tu le reprends. C'est vraiment comme un almanach, quoi. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle en plus, donc ça tombe bien.
Ah, bah écoute, je vais. C'est disponible en ligne, ça.
Je te l'enverrai, mais ouais,
C'est un
tu peux
grand
le trouver
plaisir.
en PDF, c'est gratuit. Il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle J'ai peur, donc j'y vais, de Steph Blue Lips. C'est pas mal.
Je le connais pas non plus, je découvre plein de choses.
J'aime bien parce que c'est des épisodes de 20 minutes, je pense. Et à chaque fois, en fait, elle va t'aider à déconstruire un peu, tu vois, une pensée limitante pour te sentir plus libre dans ce que tu veux faire, quoi. Donc, c'est pas mal. Et j'aime bien le titre, tu vois. Moi, j'aime bien dire aussi, je sais pas comment ça se dirait en français, mais genre, et si j'ai peur, eh ben, je le fais avec la peur, tu vois. J'aime pas que la peur soit un frein. Donc, ça rejoint un peu le titre du podcast, oh là là, du podcast qui est J'ai peur, donc j'y vais. J'aime bien cette idée-là, tu vois.
Mais je fonctionne pareil. Moi, je me suis toujours, tu sais, j'ai dû surmonter pas mal de peurs dans ma vie. À chaque fois, je me suis dit, quand j'avais une grosse peur comme ça, je me suis dit, allez, c'est pas grave, j'affronte.
Ouais, en fait, si t'as peur, c'est qu'il se passe un truc important, quoi.
Ouais, puis c'est qu'il y a un bloc, tu sais, il y a un nœud et tu sais que tu vas passer un cap si tu vas au-delà.
Ouais, moi
Tu
j'aime
vois?
bien.
Je suis d'accord. Affronter sa peur plutôt que de la fuir, tu vois.
Ouais, moi j'aime bien ça. Après, qu'est-ce que je te conseillerais? L'art subtil de s'en foutre. Je sais pas
Ah,
si t'as lu.
j'adore ce bouquin.
Il est très très cool, je l'aime bien. Je le relis de temps en temps et c'est vrai que c'est. J'aime bien le fait de se détacher un peu, tu vois, de ce qu'on attend de toi et de pouvoir te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, se foutre de la vie des autres, Ouais, l'échec, c'est quelque chose de normal, tout ça, c'est pas mal, j'aime
Puis
bien.
c'est pas grave surtout, c'est pas
C'est ça,
grave.
c'est pas grave. Moi, si tu savais le nombre de fois où je me suis plantée, bon, écoute, je suis toujours là, hein.
Bah, tu sais, hein, moi j'ai eu deux liquidations judiciaires, hein, dans ma vie. Et pour autant, comme tu dis, je suis encore là et je continue à entreprendre et c'est cool, tu vois, je vis ma meilleure vie.
Ben, je pense qu'il n'y a que en faisant rien que tu risques pas d'échec, quoi.
Exactement.
Donc, c'est un peu dommage, c'est sûr
Alors qu'en
que.
fait, tu apprends énormément avec tes échecs.
Ouais, c'est ça. C'est un peu cucu, mais c'est soit je réussis, soit j'apprends, quoi.
Ah, c'est pas cucu, hein. Je crois que c'est cucu pour les personnes qui ont peur de l'échec
Ouais.
et qui se disent ouais, ça semble trop facile. Bah, en fait, si, c'est facile. Après, il faut arriver à se détacher quand même de son échec, c'est pas évident. Mais quand tu arrives à t'en détacher, tu te dis bah ouais, finalement, c'était peut-être même la meilleure chose qui pouvait m'arriver, tu vois.
Ouais, et puis c'est pas si grave. Enfin, au pire, qu'est-ce qui peut se passer, quoi? C'est pas, voilà, c'est pas la fin du monde.
Moi, j'avais une amie qui me disait, tu sais, quand j'allais la voir, je disais, ouais, j'ai tout loupé. Elle me regardait, elle me disait, t'es mort? Alors je disais, ben non. Et elle me disait, ben donc c'est pas grave.
C'est ça, c'est ça. Et puis peu importe ce qui se passe, enfin. Il y aura toujours un changement de situation quelque part, tu vois. Toi, tu as vécu des liquidations judiciaires. Moi, j'ai perdu plein de thunes aussi dans des investissements, par exemple avec la clinique,
Ah,
etc.
j'imagine.
Bon, sur le coup, effectivement, ça fait mal quand tu vois ton compte qui est beaucoup moins que ce qu'il était avant. Enfin, ouais, c'est chiant. Et puis, c'est un échec. Tu avais des employés, tu dois les licencier. Tu dois expliquer à tout le monde que non, ça marche pas, enfin, c'est plus comme ça. Même là, tu vois, par exemple, je me suis séparée ré récemment et il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Oh, j'espère que ça va, c'est toujours difficile une fin et tout. En fait, nous, on le voit pas trop comme ça. Genre, c'était une belle aventure, on a kiffé ces 8 ans et quelques. Et c'est le début d'une autre, quoi. Et c'est plus les gens qui le voient comme un échec que nous. Donc, c'est pas grave. Enfin, voilà.
Bon, l'essentiel, oui, c'est de vivre bien, de vivre bien effectivement les échecs, puis d'avancer, de progresser de toute façon.
Oui, puis ce qui peut être un échec pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre non plus. Donc voilà, il n'y a jamais rien de grave. Si tu as encore tes deux bras, tes deux jambes et ta tête sur les épaules, ça va quoi.
Un jour, je t'expliquerai. J'ai même fait une fois exprès d'échouer pour pouvoir me sortir d'une situation. Tu
Ça
vois? C'est-à-dire,
m'intéresse.
pour le coup, je te le raconte, tant qu'à faire, parce que pour le coup, j'ai fait un gros teasing. J'ai fait exprès de planter une de mes boîtes qui marchait très bien. pour juste pouvoir me sortir d'une situation qui était compliquée. En fait, le seul moyen, c'était de planter cette boîte.
Et donc, j'ai du coup, c'est pas du tout un échec.
Ben oui, mais c'était super bizarre parce que pour le coup, tout était mis en place. Tu vois, j'avais une stratégie de la loose. C'était qu'est-ce que je peux faire pour planter cette boîte qui marche bien. Et donc, je suis rentré dans une stratégie de la loose. Ça a été particulier. Peut-être que je ferai un épisode de podcast là-dessus, tiens, sur la stratégie de la loose.
Ouais, j'imagine que ça peut être intéressant de ne pas te perdre au milieu d'un truc comme ça où tu fais exprès de te planter.
Ben ouais, parce qu'à un moment, des fois... Mais tu sais, des fois, quand ça marche, bah, c'est tout con, hein, ça marche, mais ça ne te correspond plus, ou ouais. Ça ne te ressemble plus, ou tu te retrouves à... En fait, tu te regardes dans la glace, tu te dis, mais ce n'est pas moi, ça. Et pourtant, ça marche. Tu vois, tu gagnes de l'argent, mais ce n'est pas toi. Bah, donc, dans ces cas-là, il faut loser.
C'est ça. Très, très hâte d'écouter cet épisode, la stratégie de la lose, ça m'intéresse.
Ah, allez, ça sera mon prochain épisode. Pas de problème.
Nickel.
Nelly, on arrive à la fin de cet entretien. Bah déjà, je te remercie parce que tu nous as donné énormément de choses aujourd'hui.
Bah, merci à toi, c'était trop cool de discuter avec toi.
Ouais, et je pense qu'on aurait pu encore durer quelques heures si on avait vraiment, si on avait vraiment cherché à le faire. Mais
on reprend.
Après, c'est rude, les épisodes. Il y a des podcasts hein, qui sont spécialisés comme ça. Tu as des épisodes qui durent 5 heures, 6 heures. C'est pas mal, mais c'est tonique. Hein. Faut quand même vraiment tenir la distance.
Ouais.
Si des personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi, donc elles peuvent bien sûr s'abonner sur LinkedIn, mais où est-ce qu'elles peuvent te retrouver ailleurs? Est-ce que tu as un site internet, quelque chose où les gens peuvent voir ce que tu fais?
Ouais, principalement sur LinkedIn. Mon site est en refonte, donc actuellement, j'ai très très honte, mais bientôt, ça ne sera plus le cas.
c'est pas grave, ça arrive.
C'est nellykempf.com, donc pas très original, mais très pratique. Mm-hmm. J'ai une newsletter aussi, donc le lien d'abonnement est directement sur mon LinkedIn. Mais globalement, ouais, tout part de LinkedIn. C'est de là qu'on va pouvoir retrouver un peu tous les endroits sur lesquels je suis.
Trop bien. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Je te souhaite, ici il est 17h10, donc ça veut dire que chez toi c'est le matin là.
C'est 9h10, ouais.
Waouh, donc je te souhaite une super journée.
Merci beaucoup.
Et plein de belles choses. Et puis bah, je te dis à très vite, merci beaucoup.
Merci encore pour l'invitation, c'était vraiment top. Et puis très très bonne journée à toi et à tout bientôt.
Au revoir Nelly, merci. Merci à tous.
Salut.